L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business, comme chaque samedi, 16h-18h. Vous le savez, votre rendez-vous dédié à l'high-tech du week-end. Tout à l'heure, notre World Tour. Nous irons à Casablanca avec Aurore Géraud. Et puis notre French Tech Tour, on s'intéressera à la fabrique Aviva. Et puis, juste après, ce sera l'actualité vue par toute l'équipe et la rédaction de Zeronet.com, comme chaque samedi. Mais dans l'immédiat, notre passion, selon Sanet, on va parler des nouveaux visages de la philanthropie. Bill Gates, Mark Zuckerberg, vous le savez, ils investissent énormément pour le bien-être de la planète. Eh bien, on va en parler.
Ils donnent surtout.
Et oui, ils donnent.
Ouais. Ils donnent surtout. Alors, pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir un spécialiste en studio. Antoine Vaccaro, bonjour.
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 Antoine, vous êtes président du CERFI, qui est un centre de recherche et d'études autour de des questions de la philanthropie.
Tout à fait. C'est bon.
J'ai bon. Alors, François le mentionnait. On a plusieurs annonces, entre Mark Zuckerberg qui vient d'annoncer léguer 99% de sa fortune.
Voilà, tout au long de sa vie, hein, donc oui, c'est pas d'un coup. Hein, voilà.
Tout au long de sa vie, en 2014.
Ce qui est pas mal.
Bon, après 1% de sa fortune, c'est pas mal non plus.
Je pense que sa famille est à l'abri, mais ce qui est normal de toute façon. Ouais.
Mais oui, en 2014, on a également Bill Gates qui aurait donné pas moins d'$1,4 milliard aux œuvres caritatives. Est-ce que vous pensez que c'est juste de considérer que la philanthropie se logerait parmi les géants du web?
De manière traditionnelle, dès que des fortunes considérables se créent, ça a été le cas à la fin du 19e siècle avec Rockefeller, Carnegie, Vanderbilt, etc., de manière assez mécanique, au bout d'un processus d'enrichissement et de vie, ces grandes fortunes pensent à leur postérité, pensent à ce qui deviendra de leur nom et de leur action sur Terre, et vont effectivement vers des projets de création de fondations, des projets philanthropiques. On a eu une sorte de calme pendant près de 50 ou 60 ans parce que les lois, notamment fiscales américaines, ne facilitaient pas de tel enrichissement. Mais depuis la fin des années 80, début des années 90, à nouveau, dans le monde, se créent des fortunes gigantesques en milliards de dollars qui poussent ces entrepreneurs, on va dire capitaines d'industrie, au bout d'un processus d'enrichissement, de se poser la même question que leurs aînés. Qu'est-ce qui deviendra de moi après tout ça ? Et s'interroge effectivement sur la manière d'intervenir sur les sujets d'intérêt général, à la fois pour leur postérité, leur ego, peut-être aussi des questions de fiscalité, mais au final, au profit de causes d'intérêt général tout à fait importantes. Et les nouvelles fortunes se sont créées, notamment grâce à l'informatique, au numérique, et au web, en fait, aux richesses de la Silicon Valley. Et évidemment, ces entrepreneurs viennent à ces questions de philanthropie plus jeunes, beaucoup plus jeunes que leurs aînés. Ça, c'est quelque chose, effectivement, à noter.
Oui, parce qu'en fait, ce parcours psychologique, intellectuel, se fait plus rapidement.
Alors, l'enrichissement était plus rapide.
Oui, c'est sûr.
Et de façon extraordinaire. Et donc, du coup, les problématiques d'intervention au niveau de ces sujets d'intérêt général viennent aussi beaucoup plus rapidement. Mais les sommes en jeu sont même plus considérables que celles du passé. Et donc, avec ces sommes, on peut effectivement peser sur des choix à la fois, de santé publique, d'éducation, et peut-être de changement du monde au niveau planétaire. Et on les voit effectivement intervenir sur des sujets de santé, de lutte contre la pauvreté, sur l'éducation. Et ils sentent effectivement avoir là une capacité d'action qui leur permet de changer le monde.
Mais cela dit, quand on voit aujourd'hui la fortune de Mark Zuckerberg, qui est évaluée à plusieurs dizaines de milliards de dollars, je crois.
45 milliards.
Est-ce qu'il a le choix de faire autrement ? C'est-à-dire qu'il, en fait, c'est tellement d'argent que ça serait presque mal vu s'il ne faisait pas, non ?
Alors, aux États-Unis, oui. C'est un sujet qui est tout à fait, effectivement...
C'est-à-dire qu'on le pointerait du doigt, s'il ne le ferait pas.
Vous avez tout un tas de littérature sur le sujet. Carnegie disait, mourir riche, c'est mourir disgracié. Ou l'autre, je ne sais plus quel était l'autre philanthrope, nous dit, les linceuls n'ont pas de poche.
Oui,
ou voir même Warren Buffett qui a légué lui sa fortune, non pas pour créer sa propre fondation, donc là il est encore plus fort, pour renforcer la fondation de Bill Gates en considérant que il aura une expertise tellement importante qu'il vaut mieux lui confier cet argent.
L'argent, parce que je sais qu'il sera bien utilisé.
Lui dit, il n'est pas question qu'un de mes spermatozoïdes chanceux hérite de ma fortune. Donc il a laissé à ses enfants 15 ou 20 millions de dollars.
Ce qui leur suffit pour vivre.
Très largement pour reconstruire un projet entrepreneurial et peut-être de se réaliser eux-mêmes. Et le reste, il le lègue à une fondation. Sauf que dans ces pays anglo-saxons, on passe aux États-Unis et Grande-Bretagne, on peut tout léguer à une fondation en déshéritant éventuellement ses héritiers.
Alors qu'en France, c'est pas possible.
Alors qu'en France, c'est impossible. Alors de quoi il faudrait avoir l'accord des héritiers de pouvoir faire de telles transmissions. Et c'est vrai que dans les pays latins.
C'est pas dans la culture aussi française, j'ai
l'impression. Les pays latins, de manière générale, on a plutôt envie que ses propres héritiers continuent, perpétuent une action. Et effectivement, on voit des transmissions générationnelle très importante de milliardaires que vous connaissez aussi en France.
Mais ça change, non ? On a l'impression.
Alors ça commence à changer.
Xavier Niel, par exemple, qui lègue une partie aussi de sa fortune. Alors bon, c'est pas 99%, mais c'est quand même beaucoup d'argent.
Alors ça bouge. Alors, pour vous donner encore une anecdote, le terme philanthropie en France était banni du discours des gens qui s'intéressaient à ces questions. On parlait de mécénat, de générosité, voire de charité. Ce terme, jusque au milieu des années 2000. 2004-2005, était totalement inaudible. Bill Gates affiche cette fondation, Warren Buffett le rejoint, et tout d'un coup ce terme retrouve une nouvelle jeunesse. Et la philanthropie devient un terme à la mode, alors qu'il était ringard pour nous qui pensions que c'était des relents de l'ancien régime et de systèmes de dames patronesses qui s'intéressaient aux pauvres. En fait, depuis 2004-2005, avec Warren Buffett et Bill Gates, ça redevient un terme à la mode, et surtout, on s'est rendu compte que ces interventions avec des masses financières aussi importantes pouvaient changer les choses. Un chiffre qui m'avait été donné par un ancien patron de l'Institut Pasteur, avant la fondation Gates, par exemple, il mourait dans le monde 2 millions d'enfants de la rougeole. Cette fondation s'attaque à ce sujet avec l'OMS, avec un certain nombre d'acteurs de la vaccination. On est tombé à 200 000 morts.
Donc là, grâce à l'argent de Gates, on a réduit de
80% le nombre de morts de la rougeole, qui était quand même un scandale puisque les vaccins existaient.
Et là, c'est du concret.
Et là, c'est très concret. Et là, il veut s'attaquer à l'éradication de la polio. Donc, il va rester quelques milliers, centaines de milliers de personnes. On les a isolés. On sait qu'ils se trouvent au Yémen, au Pakistan. Ça va coûter très cher d'aller trouver la dernière personne porteuse de la polio. Mais enfin, s'il y arrive, on pourra dire, pour l'histoire, Bill Gates a éradiqué la polio dans le monde. Donc pour lui, ça peut être aussi un achievement, comme ils disent, extrêmement important.
Donc ce que vous dites, ce qu'il recherche, c'est avant tout la postérité, ou est-ce qu'il n'y a pas une forme de... Est-ce qu'il n'y a pas une forme de soft power derrière l'idée d'imposer des valeurs très, très américaines, très anglo-centrées ?
Ça, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Il y a à la fois une question personnelle, de psychologie, et puis il y a une question de vision. Le côté prophétique, notamment des cultures anglo-saxonnes sur où va le monde et quel type de monde on veut proposer au reste du monde, et l'empire, qu'on le veuille ou non, si c'est encore un empire, a ce pouvoir d'intervention. Et là, on a effectivement des éléments de soft power, d'influence. Rockefeller, par exemple, travaille beaucoup sur le country building, l'introduction de, notamment, les démocraties dans un certain nombre de pays. Ce que fait aussi Soros. Il a beaucoup aidé dans les pays de l'Est à reconstruire des systèmes démocratiques. Donc, il y a effectivement des éléments personnels de postérité, d'image, peut-être aussi religieux. C'est des gens qui pensent qu'effectivement, ne pas faire de dons peut nous séparer.
Parce qu'ils avancent dans la vie, et donc ils se rapprochent de la mort, donc ils peuvent imaginer.
Et puis derrière, c'est effectivement proposer un système de valeurs, de vision, de société qui est quand même très propre à leur propre culture et leur propre vision du monde. Je suis tout à fait d'accord avec ça.
Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une philanthropie à la française ? Et est-ce que son renouveau pourrait se nicher parmi nos stars de l'innovation, par exemple un Xavier Niel ?
Alors, si vous voulez, je pense que on l'a bien constaté, tout enrichissement aussi considérable, et ces enrichissements existent aussi en France et en Europe, sur un terrain d'inégalité qui est aussi tout à fait insupportable. Ces gens se disent, si on ne fait pas quelque chose, si on n'intervient pas à côté de l'État-providence ou en, disons, en aiguillon de l'État-providence ou en appui d'un certain nombre d'initiatives publiques, ça va nous péter à la figure. Il va falloir faire quelque chose pour accompagner, par exemple, les jeunes dans les quartiers, pour aider des personnes en difficulté à cause de la mondialisation, etc. Donc, je pense que ça, c'est aussi un élément moteur de la décision de ces riches qui ont fait fortune aux conditions que l'on sait, qui sont des conditions économiques extrêmement dures, etc., de réinjecter et rendre au collectif ce qu'ils ont reçu à titre individuel. Et ça, c'est aussi, quelque part, une espèce de coloration anglo-saxonne de cette attitude philanthropique, même en France. Mmh.
Cela dit, nous, la particularité, c'est qu'on est très discret en général. Il y a plein de personnalités riches qui ne disent pas qu'ils donnent de l'argent. Alors qu'aux États-Unis, c'est le contraire.
Alors, en France, c'est très mal vu d'avoir fait fortune et de l'afficher, même en philanthropie. Parce que on ira toujours poser la question,
c'est dingue,
mais
hein.
Comment il a fait fortune?
C'est vulgaire.
Hein. Cet argent vient d'où? Le piston, la corruption, etc. Et moi, je dis souvent que le bon philanthrope en France, en fait, hein, surtout en France, le bon philanthrope, c'est les philanthropes morts. Parce que le philanthrope mort, il a fait son leg, on trouve ça formidable, on va louer son action, et finalement, c'est parti pour la postérité, et on ne viendra pas lui chercher des poux dans la tête de son vivant. Et on a beaucoup de cas de gens qui ont fait des legs très importants à des fondations, ou alors on crée leur propre fondation, mais post-mortem.
Ouais. Bon, c'est mieux de donner quand on est vivant.
En tout cas, pour sa satisfaction personnelle.
Oui, c'est ça.
Mais si c'est pour recevoir des scuds dans l'autre sens, à la limite, vaut mieux attendre.
Mais c'est en train de changer, ça, non?
Alors ça bouge aussi, ça commence à. Parce que les gens se rendent compte que si ces fortunes ne font pas ça, à ce moment-là, tout est perdu. C'est-à-dire que l'impôt n'y suffit plus, ou quand il y a trop d'impôts, les gens le perçoivent de plus en plus mal. Et puis on se dit, mais tout cet enrichissement, ça sert à quoi? On va s'acheter la 1e Ferrari, on va s'acheter l'1e maison secondaire. Enfin, au mieux, finalement, consacrer une partie de sa fortune à faire le bien plutôt que simplement se l'accaparer pour les générations futures et sans véritable construction d'un modèle de société.
Très bien. Merci beaucoup, Antoine Vaccaro.
Je vous en prie.
Merci
beaucoup.
Merci.
Rappelons que vous êtes le président du CERFI. Lila, on revient dans un instant. La suite de cet atelier dans une minute. Notre World Tour et notre French Tech Tour à suivre. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique et merci d'être avec nous comme chaque samedi pour votre rendez-vous dédié aux nouvelles technologies. Notez que tout à l'heure, ce sera la rédaction de Zeronet.com qui nous rejoindra, bien sûr. Et puis après, le crash test d'Antoine et notre décryptage avec Louis Tressard. Mais dans l'immédiat, c'est notre World Tour. On va s'intéresser au Nouma qui pose ses valises à Casablanca, Aurore Géraud.
Pour le World Tour de cette semaine, je suis avec Frédéric Auru, directeur de l'activité internationale du Nouma, et Aviva Markovic, responsable développement international. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour la télé numérique.
Vous venez de lancer Nouma Casablanca, alors pourquoi l'Afrique? Pourquoi le Maroc?
Pourquoi l'Afrique? Disons c'est une évidence qu'on regarde ne serait-ce que les chiffres de la démographie. C'est le continent qui va connaître le plus gros boom en termes de naissance, et notamment il y a déjà une frange de la population absolument incroyable qui est très jeune, et on sait que la jeunesse ce sont les innovateurs de demain. Donc on est persuadé que c'est là-bas que se fera l'innovation dans les 10 ans qui viennent. Maintenant pourquoi Casablanca et pourquoi le Maroc? Le Maroc, c'est bien entendu d'un point de vue historique avec la France une relation totalement évidente. C'est aussi un pays francophone, donc beaucoup plus facile pour nous bien sûr de se déployer. C'est aussi une porte d'entrée vraiment vers l'Afrique, c'est-à-dire que le Maroc, c'est un peu le pivot entre la France et l'Afrique subsaharienne, aussi avec des relations avec les États-Unis qui aident beaucoup le développement de l'Afrique et qui passent souvent par là, et aussi une proximité par rapport aux pays arabes. Donc véritablement un carrefour totalement stratégique pour nous et pour se déployer sur l'Afrique.
Et en quoi consistera le programme? Est-ce qu'on peut voir quelque chose qu'on a déjà vu au Nouma France, on va dire, ou Bangalore, dont on parlait il y a quelques temps?
Les objectifs de Nouma International, c'est très concrètement de développer toutes nos activités. On commence par l'accélération, comme on a eu à Moscou, à Bangalore. La raison étant, c'est une bonne porte d'entrée pour faire parler du programme, pour sourcer des entrepreneurs, sourcer des talents et ainsi attirer le reste de la communauté qui seront les investisseurs, les prochains business angels, les grands groupes qui voudront travailler avec ces jeunes pousses. Sur Casablanca, justement, on lance aujourd'hui les candidatures, donc grand appel à projets pour tous les entrepreneurs qui ont envie de développer leur projet et leur start-up à Casablanca. Et très très vite, on va aller vers les autres branches que sur lesquels travaille Numa aujourd'hui, qui sont l'open innovation, donc l'accompagnement de grands groupes vers leur transformation digitale. Il y a par ailleurs énormément de groupes du CAC 40 qui sont aujourd'hui implantés à Casablanca, donc de très belles synergies à venir. Et toute la partie communauté, Numa c'est 1500 événements par an, plus de 80 000 personnes qui passent par ici, de nombreux hackathons. Et donc véritablement, c'est Numa, c'est toutes ces activités, et c'est ce qui fait la force et la synergie aujourd'hui des équipes.
Et d'un point de vue partenaire à Casablanca?
Alors, notre partenaire s'appelle Leit Sniber. C'est un garçon totalement extraordinaire. Il est, je pense que c'est un cadre à peu près. Il fait partie d'une famille assez connue au Maroc et notamment a été pendant quelques années dirigeant de, je crois, la 7e entreprise du Maroc. Donc, il a connu ce que c'était que de diriger une grande entreprise. Mais c'est aussi l'un des premiers business angels marocains. Il a mis de sa fortune personnel pour créer une fondation et lancer son activité R&A for Impact qui a pour objectif de développer l'entrepreneuriat à fort impact social. Et en fait, on s'est connu comme ça par cette activité qu'il a lancée dans le Technoparc à Casablanca. En fait, il fait déjà un peu de soutien à l'entrepreneuriat, il fait un petit peu d'open innovation avec des grands comptes, il a très bonne relation avec les entités, le service public, et donc on s'est très bien trouvé en se disant bah, en fait, Numa, c'est aussi tout ça, mais très très largement et sur des volumes très importants. Faisons ensemble, étendons en fait l'activité d'RNE sur des activités de start-up à simplement responsabilité sociale, c'est-à-dire qu'on souhaite qu'au moins elle respecte une charte de bien employer ses salariés, de faire attention à l'environnement, ce genre de choses. C'est moins contraignant que le high impact, mais c'est tout aussi vertueux. Et donc avec lui, on démarre bien entendu, effectivement, comme le disait Aviva, par l'accélération. Donc on veut aussi montrer qu'on est capable de faire progresser extrêmement vite des startups qui en ont l'ambition. Mais avec lui, on est déjà très vite dans la relation entre les grandes institutions publiques, les grandes entreprises privées et cet écosystème de startups pour créer tout de suite un écosystème vertueux comme sait le faire Numa.
Et sinon, c'est quoi la suite pour vous? Encore l'Afrique, ou on peut vous imaginer peut-être en Amérique latine?
Bah alors, on peut pas dévoiler des secrets, mais suivez-nous sur Twitter. Bientôt, on sera effectivement en Amérique centrale. Donc, prenez les paris.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Aurore Géraud, merci. Et après notre World Tour, place à notre French Tech Tour avec Lila et avec vous, Aurore, qui est toujours avec nous. On va s'intéresser à la fabrique Aviva, un beau projet qu'on va découvrir maintenant.
Mais oui, tout à fait. Alors, pour en parler, on a le plaisir d'avoir le responsable de la fabrique Aviva. Bonjour.
Bonsoir.
Thibaut de Saint-Simon. Donc, comme je le disais, vous êtes responsable de la fabrique Aviva. En quoi ça consiste?
Quelle est cette
initiative?
Alors, peut-être juste avant de développer la fabrique Aviva, un mot sur qui on est. Donc, la fabrique Aviva, c'est une initiative menée par Aviva, un assureur. Mmh. Un assureur qui est au plus près du développement des entreprises, à la fois par son métier d'assureur traditionnel, mais aussi dans l'investissement qu'il met dans l'économie réelle et dans le développement des entreprises en France. Et on a été assez pionniers dans le cadre de notre politique d'investissement en investissant dans des entreprises de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire, dans une approche de les aider dans leur développement. Donc c'est des entreprises déjà matures qui ont prouvé la rentabilité de leur business model. Et là, avec la fabrique Aviva, on voulait mettre la pierre d'avant, c'est-à-dire en gros créer une initiative qui puisse soutenir des entrepreneurs qui se lancent, des projets qui se lancent à un moment donné où on a besoin justement qu'on vous tende la main, parce que c'est plus compliqué d'aller lever des fonds. Donc la fabrique Aviva, c'est une initiative qui souhaite soutenir des jeunes entrepreneurs ou des projets nouveaux.
Donc à hauteur de 1 million d'euros pour 200 entreprises innovantes, enfin à partager entre 200 entreprises innovantes.
Ce qui est déjà pas mal.
Oui, alors le million, il est à partager exactement entre les projets qui gagneront. Alors pour gagner la fabrique Aviva, ça se fait en deux étapes en ce moment. Donc l'étape qui est très importante pour nous, qui est donc l'appel à projets. Donc là, tous les entrepreneurs qui ont plein de projets utiles, et puis je pourrais vous expliquer un peu plus que ça, ce qu'on entend par utile, peuvent candidater sur le site de la Fabrique Aviva, donc aviva.fr/lafabrique. Et la première étape pour tenter de gagner un soutien de la Fabrique, c'est de mobiliser sa communauté, donc sur le même principe qu'une plateforme de crowdfunding, oui, où on va présenter son projet et mobiliser sa communauté pour lever de l'argent. Là, on va mobiliser sa communauté pour obtenir des votes. N'importe qui peut voter sur le site de la Fabrique.
Donc, il faut convaincre tous ceux qui vont sur le site, en fait.
Exactement. Donc, la fiche projet est très simple, mais on encourage beaucoup à mettre notamment des photos, des vidéos pour aider justement à présenter, à humaniser le projet.
C'est pas vous, Aviva, qui choisissez en fait ces entreprises. Vous faites confiance en fait au public.
Alors, on va choisir les grands gagnants, mais la première étape, les finalistes sont les projets qui ont obtenu le plus de votes. Donc, le premier critère de sélection pour arriver en finale, c'est le vote. Et une fois que les projets finalistes, donc ce sont les 200 projets qui ont obtenu le plus de votes, eux seront évalués par un comité composé d'entrepreneurs plus jeunes, voire plus experts, qui eux évalueront les projets sur des critères beaucoup plus objectifs et vérifiés. Donc là, c'est notre jury qui désignera les 60 grands gagnants, qui se partageront donc des lots, 5 000, 10 000, 25 000 et jusqu'à 50 000 euros.
Et alors, qu'est-ce que vous appelez entreprise innovante utile? C'est les entreprises dites social business?
Alors, un peu, oui, c'est notamment ça. Nous, on voulait financer des entrepreneurs qui essayent d'avoir un impact positif sur la communauté et notamment en local. Nous, ce qu'on a appelé utile, on a essayé de l'illustrer par quatre thématiques. Une thématique environnement, une année de COP21 assez classique. Une thématique sociale, une thématique santé. Voilà, on est assureurs, c'est un sujet important. Et une thématique juste emploi, donc c'est soutenir l'économie locale et développer l'emploi.
Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples
de projets?
Ouais. Enfin, alors, qui vous paraissent sympathiques.
Oui, bien sûr.
Sans trop influencer, évidemment, les gens qui vont voter après. C'est compliqué.
Faut que je donne des projets sans donner les noms, en effet.
Et voilà, c'est ça.
Non, mais alors.
Ou quelques tendances.
Exactement. Ici, voilà. Non, mais c'est tout à fait. Alors, ça va être des projets, typiquement, qui vont essayer de recréer du lien entre des communautés très locales. Donc, typiquement, des plateformes qui vont mettre en contact des voisins pour se prêter des objets, des choses, voire pour, quelqu'un qui sait bien faire la cuisine et qui va vouloir qui a un peu de temps à donner, qui va vouloir vendre les petits plats qu'il fait juste à son en local aux gens qui habitent autour de lui. Ça peut être des projets comme ça, des projets voire d'agriculture durable, dans le milieu rural. Ça peut être des projets plus tournés vers l'environnement, donc le développement de la conscience environnementale en France, donc des projets qui incitent à avoir un comportement plus responsable à travers des applications, des jeux, des choses comme ça. Et puis pour tous les niveaux d'âge, on voit des projets assez sympas pour notamment sensibiliser les plus jeunes à travers des applications un peu ludiques, en essayant de les faire jouer sur le recyclage ou ce genre de choses pour leur donner les bonnes pratiques le plus vite possible.
Alors, vous évoquiez la thématique santé.
Ouais.
Parmi les différentes thématiques que vous aimeriez pousser, est-ce que ça pourrait servir un peu de fil, de moyen de repérer les talents pour vos métiers d'assureur, pour votre métier d'assureur?
Un vivier, en quelque sorte.
Ouais, un vivier, ouais, de start-up.
Alors, ça peut tout à fait être... je dirais toutes les belles histoires qu'on peut imaginer à travers la Fabrique, on sera ravis de pouvoir les poursuivre, que ce soit en les accompagnant demain dans des approches d'investissement ou en développement des approches innovantes en termes de produits. Pour la santé, oui, notamment nous, ce qu'on voit sur les projets santé, c'est beaucoup des enjeux de prévention. Donc plus que du produit, c'est plutôt inciter les gens à avoir des démarches pour réduire leur exposition au risque de santé.
Ouais.
Exactement. Donc que ce soit la pratique du sport, que ce soit bien manger, moins boire et ce genre de et ce genre de comportement qui permet de rester en bonne santé le plus longtemps possible, quoi.
Très bien, merci beaucoup Thibaut de Saint-Simon, responsable donc de la Fabrique.
Et ben merci de votre invitation.
Et Aviva,
bien sûr.
On vous invite à voter pour les projets, activez vos
déposez vos projets jusqu'au 30 décembre et votez à partir de janvier.
Et à noter que BFM Business est partenaire de cette Fabrique Aviva.
Tout à fait.
Merci. On revient dans un instant la suite de l'atelier avec l'actu par zeronet.com. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business, toute l'actualité high-tech. Et dans quelques instants, ce sera le crash test d'Antoine. Mais auparavant, justement, on va s'intéresser au gros titre de l'actualité high-tech de cette semaine, lu sur 01net.com avec Éric Le Bourlou, qui est avec nous. Bonjour Éric.
Bonjour.
Rédacteur en chef du pôle actu, donc de 01net.com. Et on va commencer par cette information qui a ébranlé le web.
Ouais.
Il semblerait que l'on ait des pistes concernant le créateur de Bitcoin, vous savez, cette monnaie virtuelle,
oui,
dont on a beaucoup parlé.
Exactement, et c'est vrai que cette monnaie numérique, Bitcoin, on n'a jamais su qui l'avait vraiment créée, alors qu'elle est sur le point peut-être de bouleverser l'économie. On rappelle que Bitcoin, c'est une monnaie numérique, mais c'est aussi une technologie qui permet de rendre les transactions peer-to-peer infalsifiables. Donc on pourrait se passer de tiers de confiance pour énormément. C'est une technologie qui aura dans le futur sans beaucoup d'impact. Mm-hmm. Mais son créateur, on n'a jamais su qui c'était.
Il a
balancé en fait finalement son invention sur Internet,
mm-hmm,
sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Donc certains disaient est-il japonais.
Voilà. Oui. En fait, peut-être c'est une petite feinte.
Exactement. Mais depuis 2009, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Il a complètement disparu. Alors depuis, c'est une espèce de traque sur Internet depuis des années. Il y a eu plusieurs fois des médias qui pensait l'avoir trouvé, notamment Newsweek, qui est le magazine Newsweek qui avait même fait sa couverture en revenant dans les kiosques avec Satoshi Nakamoto, qu'ils avaient soi-disant retrouvé, mais non, c'était pas lui. Et là, c'est Wired, le prestigieux magazine américain geek, hein, et un autre site web très connu, Gizmodo, qui tous les deux ont fait des enquêtes parallèles qui montreraient qu'il s'agirait d'un certain Craig White, un brillant informaticien autodidacte australien de 44 ans. Et voilà, plein de pistes ont mené à cet homme. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont en fait eu un lanceur d'alerte, quelqu'un qui leur a dit voilà, j'ai des informations.
Une taupe.
Enfin,
en tout cas, quelqu'un qui a balancé l'info, quoi.
Quelqu'un qui leur a balancé non seulement cette info, mais beaucoup de documents qui tendraient à prouver que c'est bien lui. Alors, cet homme, effectivement, il cadre avec le profil. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé aux crypto-monnaies,
mm-hmm,
qui participe à des conférences Bitcoin de façon complètement anonyme. Enfin, disons que je suis Craig White, voilà.
J'adore Bitcoin.
Voilà, exactement. Il est connu dans cet univers, mais jamais personne ne s'était dit
il
c'est
lui. Il a soupçonné comme étant créateur de Bitcoin.
Exactement. Alors, le truc, c'est que il y a eu beaucoup de preuves qui ont été publiées par Wired, par Gizmodo. Le problème, c'est que finalement, on n'est plus si sûr là. Plus le temps avance, ça a été révélé en milieu de semaine là. Certains commencent à dire, est-ce que c'est vraiment lui? Parce qu'il y a des choses très bizarres et le mystère en fait continue, puisque en fait, ce monsieur en fait avait un problème avec les impôts en Australie. Sa maison a été perquisitionnée juste après cette révélation et certains se demandent si en fait quelqu'un ne lui aurait pas fait un coup. Ne l'aurait pas en fait outé exprès.
D'accord.
Une machination en fait contre ce monsieur aurait des soucis avec.
Il a rien demandé à personne.
Il a rien demandé à personne. Mais alors, par contre, il cadrerait quand même bien avec le profil. Hein, c'est quelqu'un d'un peu fou, on va dire.
Oui.
Il est vraiment.
Qui aurait pu avoir le profil.
Voilà, c'est quelqu'un d'un peu fou qui a notamment. C'est juste un exemple pour donner un peu son profil. Il a notamment créé le plus gros supercalculateur privé, c'est-à-dire que chez lui, il avait hypothéqué plusieurs maisons et il avait créé chez lui un super ordinateur, un des plus puissants ordinateurs du monde, si vous voulez, qui rentrait dans le top 500,
dans son garage.
Et en fait, effectivement, c'était sans doute pour miner des bitcoins, parce qu'on sait que les bitcoins, on gagne les pièces en fait en résolvant des calculs informatiques très puissants et très très importants.
Donc c'est quand même assez mystérieux.
Ça continue, mais en tout cas.
Étrange.
C'est la piste la plus crédible qu'on a aujourd'hui, Craig White, voilà.
Peut-être qu'on ne saura jamais, peut-être qu'on
verra bien, on attend en tout cas sa réaction.
Confirmation. Et oui, parce que pour l'instant, il n'a pas parlé.
Il s'est complètement effacé du net, il a tout effacé, son blog, son LinkedIn, tout ça.
Eh bien, dites-moi.
Ouais.
On enchaîne avec maintenant l'ordinateur quantique de Google. Google sera en train de tester ce genre de machine.
Alors, il teste, oui, effectivement, un ordinateur quantique en collaboration avec la NASA. Un ordinateur quantique qu'ils ont acheté à la société D-Wave. Une société canadienne et alors on savait qu'ils testaient mais on le problème c'est qu'on s'est toujours demandé si c'était vraiment cet ordinateur D-Wave s'il pouvait parvenir à un quelconque résultat parce que pour l'instant
l'ordinateur quantique c'est quelque chose qui délivre une puissance qui est presque pas imaginable en
oui
fait,
ce serait de passer d'un ordinateur traditionnel à un ordinateur quantique c'est un ce oui. serait un bon énorme sur certains calculs.
Ça veut dire qu'on passe du Minitel au...
Ah oui, là, c'est gigantesque. En fait, vous savez que les bits, c'est des 0 et des ou des 1 en informatique traditionnelle. Avec un ordinateur quantique, ça peut être un 0 et un 1 en même temps, et un mélange de ce 0 et de ce 1. Donc, vous savez que vous étendez complètement les possibilités de calcul de la machine, ce qui c'est même pas décuplé, parce que je vais vous donner là, l'expérience de Google. Google est parvenu cette semaine à résoudre un calcul, un problème algorithmique, en fait, informatique, donc, que je n'ai pas expliqué ici, parce que c'est un petit peu compliqué.
C'est un peu compliqué.
Mais qui, en gros, s'ils avaient fait le même calcul sur un ordinateur traditionnel, ce calcul aurait pris 10 000 ans.
10 000 ans. D'accord.
Là, ils l'ont fait sur
l'ingénieur le lance tôt.
Ouais, voilà. C'est un calcul. Ils ont suffisamment donné de données à la machine pour que, voilà, on se rende compte.
Un ordi normal, un vieux bousin.
Non,
quoi.
Et même un ordinateur puissant.
Puissant, d'accord.
Mais avec un ordinateur quantique, ce calcul a pris une seconde. Donc vous voyez la différence.
C'est
entre...
incroyable. 10 000 ans d'un côté, une seconde de l'autre.
Exactement. En fait,
Mais ça va bouleverser tout la médecine.
Alors le problème,
la recherche, non ?
Alors le problème, c'est que cet ordinateur quantique a été conçu spécifiquement pour résoudre cette tâche. Donc en fait, le problème, c'est qu'il est finalement monotâche. Il ne peut pas faire d'autres choses.
Mmh. C'est ça. Alors qu'un problème. PC normal peut faire plein de choses.
Exactement.
Il fera plus lentement, mais il fera plus de choses.
Exactement. Et l'autre souci, c'est que pour l'instant, les applications restent à trouver. Il y a des gens comme Google, notamment pour l'intelligence artificielle, pour certains calculs dont ils ont besoin, notamment pour leur data center, etc. Mmh. Il y a aussi beaucoup de pistes dans la cryptographie. Ça pourrait avoir des utilités, c'est pas pour demain, pour chez nous, par contre, c'est pas pour faire un PC de jeu super puissant, ça sera pas pour ça.
Dire pour Noël, si je veux m'acheter un PC chez Cdiscount, je trouverais pas un ordinateur quantique.
Non, parce que là, l'ordinateur quantique en question, il fait à peu près 2 mètres de haut, il faut le refroidir à moins 173 degrés, enfin c'est un petit peu compliqué.
C'est un peu compliqué,
voilà.
D'accord.
Okay. Mais ceci dit, Google a montré pour la première fois que cet ordinateur quantique de D-Wave pouvait fonctionner, et ça c'est déjà un grand pas, parce que pour l'instant ils testaient, ils faisaient des petits essais, mais ils n'avaient jamais réussi à trouver un résultat.
Au balbutiement, mais on se rend compte quand même de la puissance que ça peut représenter. Tiens, puisqu'on parle de puissance, si vous avez un iPhone, peut-être vous êtes-vous rendu compte que la batterie n'est pas forcément d'une puissance phénoménale, notamment avec les iPhone 6,
il est
parfois difficile de tenir une journée entière. Apple s'est dit, écoutez, on va régler le problème. On va vendre un accessoire qui va régler le problème.
Exactement. Apple lance, en fait, une coque.
Et c'est la première fois.
C'est la première fois, ouais. C'est la première fois que...
Une coque avec une batterie à l'intérieur.
Exactement. Une coque avec une batterie à l'intérieur. Et c'est vrai que ça a un peu surpris tout le monde parce que ça veut dire donc que Apple reconnaît finalement que son iPhone n'a pas forcément assez d'autonomie.
Comment se tirer une balle dans le pied un accessoire.
Exactement. Alors l'autre problème de cette coque, alors si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, c'est qu'elle est absolument moche. Ça c'est vrai que voilà, tout le monde se l'est dit. Quand on l'a vue, on s'est dit mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait quoi. Elle a une espèce de, je sais même pas comment expliquer ça, de bosse à l'arrière, ce qui fait que
oui, recouvert d'une espèce de caoutchouc. Enfin d'ailleurs ça ressemble un peu
à la coque traditionnelle
de l'iPhone, mais vous savez, qui est un peu caoutchouteuse et qui est très douce au toucher.
Exactement, voilà. C'est un peu la même chose.
Sauf que vous avez une protubérance en fait sur le dos, qui est autre que la batterie, qui a été posée là comme ça. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a bricolé un truc.
Exactement. Donc ça fait pas très Apple, qui nous a plutôt habitués à des produits élégants, qui est censé être le roi du design. Alors ils ont appelé ça en plus la smart batterie. Donc bon, elle est smart certes, bon c'est une batterie en plus. Surtout que c'est pas du tout un produit innovant puisque il y a déjà plein de gens qui font des batteries pour iPhone. Je vais pas citer de marque, mais il y en a beaucoup qui sont sur le marché. Et en plus, des batteries plus performantes. Donc, c'est vrai que Apple, malheureusement, là, sur le coup, s'est un peu planté parce qu'ils se sont pris plein les dents sur les réseaux sociaux. Ça a été vraiment sur Twitter une espèce de déferlante sur pourquoi ils font ça, quoi.
Est-ce qu'elle est bonne au moins cette batterie?
Alors on l'a pas testée encore chez 01net, mais en revanche les premiers tests disent que voilà, elle est correcte, mais elle ne suffit pas à charger une fois votre iPhone en entier.
Plus, d'accord.
Donc elle n'est pas
double...
si performante que ça.
Voilà, on voit bien que Steve Jobs n'est plus là.
Oui,
parce
c'est
que
sûr.
Je pense pas que.
Oui, ce projet.
Avec l'air
pas...
Steve Jobs,
non, c'est sûr.
Ce projet aurait abouti. Mais enfin bon, voilà. Une page qui se tourne. On enchaîne avec Twitter. Twitter qui a un gros problème, c'est que Twitter n'arrive plus à engranger de nouveaux abonnés.
Non, ça stagne.
Alors ils en ont quelques centaines de millions, c'est pas mal. Mais ils se font distancer par Facebook qui lui continue
exactement,
à grossir.
Par Facebook, par Instagram, Twitter effectivement est un peu
à la traîne. Et donc ils essaient justement de rattraper leur retard en lançant de nouvelles fonctionnalités. D'ailleurs, si vous êtes un adepte de Twitter, vous avez sans doute remarqué ces derniers temps, il y a régulièrement des mises à jour qui changent un petit peu l'ergonomie. L'interface de Twitter.
Et là, en fait, ce qu'ils sont en train de tester, c'est un fil de tweet différent, c'est-à-dire un fil de tweet qui ne serait plus classé par ordre antéchronologique, mais de façon algorithmique. C'est-à-dire que ce serait Twitter qui choisirait en fonction de ce que vous avez précédemment aimé, les liens vers lesquels vous cliquez le plus.
Ce que fait très bien Facebook.
Exactement, c'est ce que fait Facebook. Twitter, en fait, s'inspirerait de Facebook pour ne plus présenter.
Parce que le bouton j'aime, c'est quand même.
Tout à fait. Ils sont beaucoup inspirés de Facebook. Ils récupèrent les recettes qui marchent, mais le problème de ce changement, c'est que c'est un changement fondamental de l'utilisation de Twitter, parce que Twitter, c'est l'instantanéité, c'est une espèce
de. C'est ce qui se passe à la seconde,
C'est ce qui se passe à la seconde.
On le voit bien durant les événements d'actualité dramatique.
Tout à fait.
Twitter prend tout son sens dans ces moments-là.
Mais donc pour les gens qui sont habitués à Twitter, qui l'utilisent au quotidien, parfois pour des besoins professionnels, ça peut ça a provoqué évidemment une levée de bouclier, parce qu'on s'est dit là ils sont en train de complètement changer la façon dont fonctionne Twitter. C'est pour l'instant qu'un test. Il est possible que Twitter propose cette option et vous laisse la possibilité
qu'on puisse la désactiver.
Voilà, de continuer sur l'ancien modèle. Il n'empêche que c'est assez impressionnant. Mais effectivement, comme on l'a dit, c'est aussi parce que Twitter a besoin de recruter de nouveaux abonnés qui sont un petit peu perdus quand ils arrivent sur Twitter et sa présentation un petit peu. C'est pas forcément évident de s'y retrouver tout de suite, en effet.
Et puis, vous avez sans doute déjà remarqué que sur Twitter, on a ce genre de situation lorsque, par exemple, vous le matin, vous vous réveillez, et bien on vous dit ce que vous avez raté comme tweet.
Exactement. Ça a été lancé il y a quelques mois.
Voilà, il faut rafraîchir plusieurs fois pour avoir les derniers tweets qui viennent d'arriver.
Ouais.
Donc, on est sur cette voie-là déjà.
Exactement.
Merci beaucoup, Éric Le Bourlou.
Merci.
Rédacteur en chef du pôle actu de 01net.com chaque samedi dans l'atelier numérique sur BFM Business. La suite et la fin de cet atelier dans une minute. Antoine sera là. Pour le crash test, on va parler du Père Noël soviétique avec Antoine. Et ça promet. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Cet atelier touche à sa fin, mais je sais que vous attendez ça, c'est votre gourmandise de ce week-end. Le crash test d'Antoine dans quelques instants, mais auparavant, c'est notre décryptage avec le directeur général de l'atelier, Louis Tressart, qui nous parle de mobilité, Louis, cette semaine.
Oui, cette semaine, je vais donc vous parler de la mobilité et d'un certain nombre de phénomènes, puisque on peut considérer que pendant longtemps, on mettait en opposition, par exemple, pour le particulier, les transports en commun et la voiture.
Et dans l'évolution de cette mobilité, la voiture connectée est clé.
La voiture connectée, elle est clé, mais avant de rentrer dans le détail de la voiture connectée, je dirais qu'il y a deux phénomènes quand même importants concernant cette voiture, objet de malheur, objet de pollution. Ce sont deux phénomènes qui se sont développés, amplifiés, encore une fois, grâce au digital et à ses possibilités de service. C'est l'autopartage et le covoiturage. Dans les deux cas, un phénomène transverse, c'est tout simplement amortir les frais du propriétaire de sa voiture, que ce soit l'essence et les différents frais. On voit déjà d'ailleurs qu'il y a une question assez importante à se poser, puisque lorsqu'on parle d'une voiture, on parle donc automatiquement de propriété. Qui est le propriétaire aujourd'hui de la voiture et qui sera le propriétaire demain ? Une étude est sortie il y a peu, entre autres avec les véhicules français, où je crois que la moyenne d'âge était de l'ordre de 53-55 ans. On va dire donc les quinquagénaires achètent encore des voitures, mais pas les jeunes, qui sont rentrés dans des usages plutôt de la location ou tout simplement à l'usage à l'heure. Donc ce sont des modèles très différents qui peuvent se poser des questions sur l'avenir, encore une fois, de cette propriété. Quelques chiffres, quelques questions sur la notion de propriété de la voiture, donc du propriétaire de la voiture de demain. Quand je parle de chiffres, c'est des phénomènes que je trouve intéressants. A priori, il y a en France, en tout cas, 13% d'acteurs qui retardent en tant que ces utilisateurs, qui retardent l'accès au permis. 20% vont jusqu'à dire que ils rouleraient moins s'il n'y avait pas ces services qui leur permettent d'amortir leur véhicule. Donc c'est quand même très intéressant, puisque si on parle de pollution, on voit bien qu'a priori le parc va être plus utilisé. Et donc, comme vous le disiez, dans ce phénomène de l'automobile par rapport à ces services, vous avez l'automobile connectée, puisque c'est elle qui, entre autres, a permis ou permet toujours, bien évidemment, d'être connectée, d'être géolocalisée, avec un certain nombre de services qui se développent au fur et à mesure via cette via les technologies. Donc, on a aujourd'hui, d'ailleurs, quand on se projette un petit peu trois phases de cette voiture connectée pour arriver à la voiture autonome. La première phase, c'est la voiture que nous connaissons aujourd'hui, qui intègre un certain nombre de technologies, ces technologies que l'on appelle les Advanced Driver Assistant, qui permettent tout simplement de capter par exemple l'angle mort avec un certain nombre d'alertes pour garder ses distances, etc., de système ADAS. Vous avez dans un deuxième temps, qu'on peut imaginer dans les années 2020, des automatismes beaucoup plus importants qui vont jusqu'à, en fin de compte, permettre au pilote de laisser la voiture se conduire, mais la présence du pilote, donc du conducteur, est toujours obligatoire en cas de, entre guillemets, de problème. Et puis, vous avez la troisième phase, et là, nous arriverons à la voiture autonome, qui est a priori dans les années 2030. On est dans cette incrémentation, on va dire, des possibilités qui va amener donc à la fois de nouveaux services, à la fois de nouvelles utilisations, et donc de grandes questions qui sont à se poser. Je parlais tout à l'heure de la propriété, c'est aussi, on parle de pollution, c'est aussi les modèles, hein. Un Uber aujourd'hui qui par exemple a une problématique double, l'une avec la législation territoriale par exemple, l'autre avec sa masse salariale des pilotes, mais demain cette plateforme de service utilisera des voitures autonomes et donc on sera dans une autre problématique et une autre rentabilité pour Uber. Donc on l'a compris, il y a une véritable effervescence en ce moment autour du véhicule, que ce soit par des angles, encore une fois, de mobilité, de réponse à des usages par rapport à une économie, par rapport aux différentes typologies.
Oui, Trossard, merci.
Place maintenant donc à notre crash test avec Antoine Cyr pour clore cet atelier numérique. Et Antoine, vous avez choisi alors un crash test d'actualité, on va dire de saison, puisque vous avez choisi pour nous Dead Morose.
Oui, je vais vous parler de Dead Morose.
Ce qui n'est pas un groupe
alors,
de rock.
Alors, déjà, Dead Morose n'est pas un gars qui est mort et qui est morose.
Oui. Voilà, c'est ça. Parce que ça lui fait le double effet.
D'accord. Non, pas du tout. Dead Morose n'est pas mort. D'accord. Et n'est pas morose. Oui. Donc Dead Morose est tout sauf dead et tout sauf
et tout sauf morose.
Car Dead Morose, c'est en fait le Père Noël russe.
Le Père Noël russe?
Le Père Noël russe. Et alors, vous allez voir, il est assez passionnant, ce Père Noël. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme tous les Pères Noël, il a une vie compliquée qui l'a amené à son état actuel de Père Noël. Par exemple, vous savez que...
Il n'est pas né Père Noël, en fait.
Vous savez, hein, par exemple, que le Père Noël, notre Père Noël à nous, oui, c'est une espèce de mélange de Saint-Nicolas et d'une publicité de Coca-Cola qui a créé, oui, le personnage du Père,
exactement,
Noël tel qu'on le connaît dans les années 30, et puis aussi de la légende de Sleepy Hollow qu'on voilà, mm-hmm, donc c'est un
mélange de légende en quelque sorte
de l'histoire de mélange très compliqué le Père Noël. Donc le Père Noël russe s'appelle Dead Morose. Alors à l'origine, de la même manière que notre Père Noël à nous, il est un mélange de légendes saintes et de légendes plus sombres, puisque les légendes les plus anciennes décrivaient ce Dead Morose comme un sorcier méchant et cruel qui était proche d'anciens dieux slaves, comme par exemple Posvitz, qui était dieu du vent, ou Zimnik, qui était dieu de l'hiver, sans parler de Koroshun, qui était un roi souterrain régnant sur les froids, glaciaux.
Il a pas l'air sympa, lui, le dernier. Enfin, les deux précédents non plus, mais alors voilà. Lui.
Et donc, selon la légende, Dead Morose ne parsemait pas du tout les cheminées des petits-enfants de cadeaux, mais il aimait congeler les gens, enlever les enfants et les emporter dans son grand sac. Et
ça puis, commence mal.
Oui, et puis petit à petit, c'est d'abord l'église orthodoxe qui a transformé le personnage de Dead Morose et qui en a fait petit à petit un personnage assez proche de ce de Santa Claus, en fait, du Père Noël. Et puis alors là, d'un seul coup, Dead Morose a acquis une immense gloire. C'est au moment de l'Union soviétique qui, mm-hmm, s'est dit que ça pouvait être un personnage très intéressant, qu'il a évidemment laïcisé, puisque l'époque communiste était une époque sans religion. Alors, comme c'était une époque sans religion, la fête de Noël a été supprimée. Donc, on a décidé que Ded Moroz apporterait les cadeaux au jour de l'an. Et donc, c'est pour ça que les Russes continuent d'ailleurs aujourd'hui de faire la fête des cadeaux au jour de l'an.
Donc, ils reçoivent deux fois des cadeaux ou...
Non. Le Noël, c'est le jour de l'an. C'est la grande fête des cadeaux. C'est de l'arbre de Noël, de tout ça. C'est le jour de l'an. Et donc, ils ont exporté Ded Moroz à l'extérieur, dans les autres pays communistes, donc qui ont pris l'habitude aussi d'avoir non pas notre Père Noël façon Coca-Cola, mais Ded Moroz.
Quoi qu'il est habillé de rouge.
Alors justement, vous allez voir.
Pardon.
Non, vous allez voir.
Je suis en train de.
Et puis, évidemment, ce Père Noël-là, mais ça depuis c'est revenu à quelque chose d'un peu plus normal, n'apportait pas forcément les cadeaux à des personnes, mais à des groupes. Il apportait au groupe de pionniers, au groupe de Komsomol, aux soviets locaux. Enfin voilà, il apportait des cadeaux collectifs, évidemment, Ded Moroz. Mais ça. On est revenu à un Ded Moroz qui est devenu
plus sympa,
plus individualiste. Alors, vous avez des dessins animés de Ded Moroz sur YouTube, donc vous pouvez voir à quoi il ressemble. Il est tout à fait, évidemment, dans ses dessins animés, tout à fait gentil. Et vous allez voir qu'il est accompagné par une assistante qui est peut-être sa fille, enfin qui fait une grande partie du travail là sur le petit dessin animé que j'ai pu voir. Elle prend un avion et elle le sauve. Enfin bon, elle est vraiment. En gros, lui, il est assez flemmard et c'est elle qui bosse. Elle s'appelle Snegurochka, ce qui veut dire en russe. Donc ça, vous l'avez sur la fiche évidemment Wikipédia de Ded Moroz. Donc Snegurochka veut dire en russe petite fille des neiges. Ou fait des neiges, et donc elle accompagne ainsi ce brave Ded Moroz. Et alors, quand même, là où évidemment je ne pouvais pas vous laisser dans l'ignorance de l'existence de ce Ded Moroz, c'est qu'il y a un site qui s'appelle New Eurasia Citizen Media qui a fait un article intitulé « Why Ded Moroz is infinitely more badass than Santa Claus ». Bon, voilà. Donc, badass, évidemment, tout notre public de geeks...
ont une petite idée de la traduction.
Une petite idée de la traduction, quoi. Voilà, enfin, bref, c'est super, quoi. Voilà. Et donc, pourquoi Ded Moroz est beaucoup mieux que Santa Claus? Alors, il y a trois arguments. D'abord, je vous lis en anglais, Ded Moroz has vastly superior style. Il a un style immensément supérieur.
D'accord.
En effet, on voit une photo de notre Père Noël à nous. Alors, c'est toujours compliqué de faire de la radio avec des photos, mais bon, on va essayer quand même.
Bah, imaginez le Père Noël quand même.
Donc, voyez, on a un Père Noël là, rouge, avec des lunettes, etc.
Oui, sa barbe blanche.
Et puis, alors, regardez Ded Moroz. Alors, Ded Moroz, il a une barbe blanche aussi.
Oui.
Mais il a un costume incroyable.
On se croirait dans Game of Thrones.
Ben voilà, il a un costume. Ded Moroz, il ressemble, c'est un héros de Game of Thrones.
Oui, c'est
quoi.
Vrai,
donc,
c'est
tout de suite,
c'est
il a.
Un peu plus peur,
voilà,
hein.
il est quand même. Voilà, il est très, très supérieur en termes de style à cette espèce de bonhomme rouge.
C'est pas facile
rouge.
À porter tous les jours, ça. Hein.
Non, pas facile parce qu'il y a des cordes,
oui,
il y a des trucs.
C'est...
Bon, voilà. Alors, deuxième. Ded Moroz a une monture, a ride, comme c'est écrit dans le site en anglais, a une monture beaucoup plus cool, puisque on voit le Père Noël là aussi avec des petits, un train de. C'est pas des chiens qui tirent le. C'est des rennes.
Des rennes.
Des rennes qui tirent le chariot du Père Noël. Et alors on voit Ded Moroz, lui, il a des chevaux à tête de femme, enfin, là, il a.
Il est un peu plus rock'n'roll quand même.
Il est beaucoup plus rock'n'roll, quoi.
D'accord.
Et puis alors, évidemment, la troisième preuve, c'est que Ded Moroz has sexier servants, donc des assistantes plus sexy. Déjà l'usine. On voit que nous, on a des petits lutins là. C'est sympa les petits lutins,
voilà.
Et donc effectivement, Ded Moroz.
On n'a rien contre les lutins. Hein.
Mais Ded Moroz, il a quand même un atout extraordinaire, qui est effectivement cette Snegurochka. Donc là, bah, vous voyez une photo où on voit un Ded Moroz avec une Snegurochka qui a l'air quand même un peu d'avoir un peu froid quand même.
Oui, parce qu'elle n'est pas énormément habillée.
Elle n'est pas non plus.
Enfin,
elle
n'est pas. Non. Elle est
tout à fait
présentable. Mais c'est vrai qu'il fait froid.
Elle est tout à fait présentable.
Elle n'a pas une doudoune.
Non, elle est plutôt habillée en patineuse artistique.
Voilà, c'est ça.
Ce qui, à mon avis, à certains moments dans les rues de Moscou,
peut servir à quelque chose.
Non, mais doit quand même. Enfin, elle doit être contente d'avoir peut-être les patins, mais je pense que sur
cela dit, comme elle s'active, elle n'a pas le temps de se refroidir.
Voilà, puisque je rappelle donc que la caractéristique du Père Noël russe, Ded Moroz,
c'est que
il livre les cadeaux, mais à un rythme certain.
Ouais.
Et donc, tout ce qui est raté et tout ce qui pourrait poser problème, c'est donc cette Snegurochka qui lui rattrape la situation.
Voilà.
Mais c'est quand même intéressant de voir que nous, on a pensé à un Père Noël qui était tout seul et que d'autres ont pensé à un Père Noël qui arrivait
qui
en équipe.
Assisté, voilà, avec sa secrétaire.
Voilà, alors. En fait, elle s'attire quand même une grande partie de la sympathie du jury, il faut bien le dire.
C'est vrai.
On peut parler d'une équipe quand même.
Bon, que ce soit Ded Moroz ou Père Noël qui passe chez vous dans les jours qui viennent, on vous souhaite évidemment de très bonnes fêtes. Merci Antoine pour ce crash test.
Bah de rien.
Et on se retrouve la semaine prochaine, on sera là bien évidemment. Cet atelier est terminé. Merci d'avoir été avec nous, comme chaque samedi de 16h à 18h sur BFM Business. N'oubliez pas le podcast dans quelques heures disponible, bien sûr, si vous nous avez retrouvés en route. Et on sera là samedi prochain dès 16h. Salut à tous.